André Lichtenberger, le brevet. Voici le grand jour. Lilette passe aujourd'hui son brevet élémentaire. C'est une date. Je m'entends. Peut-être êtes-vous de ces ricaneurs qui affectent de lever les épaules. Oh, brevet, le bel événement. Prenez-en à votre aise pour ce que cela vous coûte. La vérité est ceci, du tablier du père tant. Il ne ruisselle guère de minutes plus décisives dans une existence. C'est heureux, mais comment vivrait-on? Pendant longtemps, ce phénomène, le brevet, apparu lointain, mystérieux, pas tout à fait vraisemblable. Étranger comme le déluge, la grande peste ou la fin du monde. Alors vous préparez votre brevet?
Oui, madame.
Oh, quelle grande fille! Ce sera pour l'année prochaine.
Oui, madame.
On avait beau, à chaque heure de réception de madame Désirel, échanger une demi-douzaine de fois de semblables propos, il n'empêche qu'en juillet dernier, quand on a vu se présenter les années, il y a eu un peu d'angoisse à se dire dans 12 mois, ce sera mon tour. Mais 12 mois, combien de fois a-t-on le temps d'être mort en 12 mois? C'est effrayant ce que le retour des vacances a tout rapproché. Avant ce trimestre d'été, on avait presque l'infini devant soi. Maintenant, la menace surplombe. Madame Bonnefaux l'a dit le jour de la rentrée. « Mesdemoiselles, n'oubliez pas que c'est l'année du brevet. » Oh non, on ne l'oubliera pas. Sans doute l'appréhension n'est plus continue. Et jusqu'à Noël, allons, jusqu'à Pâques, il y a encore quelques diversions. Et aux matinées dansantes ou dramatiques, on arrivait à faire bonne figure. On pouvait à même penser à autre chose. Nourrir le timide espoir pour qu'une appendicite ou une fièvre scarlatine ajournerait le cauchemar. Mais depuis le dimanche de la Quasimodo, les lettres se sont précipitées avec une rapidité vertigineuse. Ou à l'époque bienheureuse, où s'allongeait la perspective des années ou même des mois. Maintenant, c'est par semaine que l'on compte, bientôt par jour. On vit dans une oppression croissante où alterne l'angoisse déprimante et une fiévreuse excitation. Ne prenez pas Lilette pour une crétine. Selon le propre témoignage de Mademoiselle Bonnefous, corroboré par celui de M. Galurier, professeur de littérature. Et pourtant, oh, vous savez, s'il est exigeant, Lilette est prête. Elle est mieux prête qu'en était l'an dernier Juliette Verdier, qui a été reçue. Il est donc légitime d'espérer le succès. Et il est des heures, oh, surtout le matin, ou pourquoi pas ne pas l'avouer, on est porté à la confiance. Où l'on envisage sans terreur, on dirait presque avec une certaine impatience, le moment de la bataille qu'auréole la perspective radieuse de la victoire. Confessons-le, ces moments-là sont rares. À mesure que le mois de mai s'avance, les rêveries de Lilette sont plus sombres. Ses réveils aussi. Avant même qu'elle ait les yeux ouverts, il lui semble que quelque chose pèse sur son cœur ou sur son estomac. Je vous laisse le choix. Cette année, le printemps est moins fleuri, le soleil moins éclatant. Le monde a perdu ses séductions. Jusqu'à des détails de toilette passionnants, longueur de jupe, coupe de corsage, apparaissent oiseux. Il y a une tendance à la retraite, à la méditation concentrée. Il est des instants d'agonie. Être livré seul à une bande de vieux messieurs barbus et satiriques. Oh, chérie, y as-tu pensé ? D'avance, Lynette sent les idées la fuir. En face de son papier blanc, elle demeura le cerveau vide comme une brute. Tout sera parti. Ah, ça commence déjà. En ce moment, n'est-ce pas, elle devrait posséder son programme sur le bout des doigts. On la croit prête. Eh bien, aujourd'hui, pas moyen de retrouver la date de Bouvines. Elle serait incapable du plus petit calcul de proportion. Vous jugez de ce que ce sera le jour de l'examen? Est-ce la peine dans ces conditions de se présenter? 8 jours avant la date fatidique, il y a une crise. C'est avant le dîner, le soleil est couché, tout est sombre, et au moment où l'on annonce « Madame est servie », Lynette s'affaisse en sanglotant dans les bras maternels. Oh, elle est sûre d'être refusée. Par pitié, qu'on écarte d'elle ce calice. Madame Nestrel a longuement, tendrement réconforté sa fille. Voyons, Lynette, puisque Madame Nafou et Monsieur Galerier lui-même. Dolente, Lynette continue de remuer la tête et de pleurnicher. Ses larmes lui font du bien. Et les arguments de Madame d'Estrée ne sont absolument pas sans valeur. Après le dîner, qui était bon, il y a de nouveau une fuligineuse lueur d'espoir. Pendant la semaine qui constitue la veillée des armes, Lynette est soumise au raffinement d'entraînement intellectuel et physique des plus intensifs. Gavée au cours avec un soin minutieux de toutes les préparations scientifiques les plus variées et les plus assimilables, elle est l'objet au domicile paternel d'attention inéprouvée. À son usage, des menus inédits satisfont à l'hygiène en flattant la gourmandise. Madame d'Estrel, à qui en temps ordinaire il arrive sans méchanceté réelle de bousculer sa fille, lui témoigne des regards presque déconcertants. La jeune Yvonne, qui n'est pas sans affecter à l'occasion quelque référence vis-à-vis de ses aînés, se manifeste d'une déférence exemplaire. Il n'est pas jusqu'à cet excellent monsieur d'Estrel, qui, émergeant de petits cailloux, se confine habituellement à sa curiosité, se conforme avec sollicitude si sa fille a bien dormi et contemple avec une certaine curiosité vaguement admirative cette créature singulière qui hier encore suçait un biberon et qui demain peut-être sera une gradée de l'Université de France. Mais nous ne nous appesantissons pas sur les derniers jours. Cela fait mal. Vibrante, Lynette a passé d'heure en heure, que dis-je, de minute en minute, par toutes les affres. Les présages sont contradictoires. L'autre après-midi, montant l'escalier de Brévannes, elle a stimulé. Bah, si le nombre des marches est pair, je serai reçu. Elle en a compté 62. C'était le succès. Mais elle a eu la faiblesse de vouloir corroborer cet oracle par celui de la marguerite effeuillée, et déconcertante, la marguerite a déclaré « Tu seras collé ». D'autres augures sont également partagés. M. Douaneau, le professeur de dessin, a dit spontanément à la dernière leçon « Oh, je ne vous souhaite pas bonne chance, mademoiselle, vous n'en avez pas besoin ». Il y avait presque de quoi se rassurer, mais au retour du cours, catastrophe. Germaine Pasquier est refusée. Refusée pour l'arithmétique où elle était beaucoup plus forte que Lynette. En vain a-t-on essayé de tenir secrète la terrible nouvelle. Le hasard d'une rencontre a tout révélé. Ninette rentre en pleurant à la maison, pleure dans son potage, dans le rôti, les légumes et l'entremets, pleure dans son lit. Et au moment où Madame d'Estrel, rentrée au salon, ouvre la bouche pour formuler l'espoir qu'elle s'est endormie, voici que, dans le silence de la nuit, retentit un hurlement effroyable. C'est la jeune Yvonne, compagne de chambre de sa sœur, qui est gagnée par la contagion et dont la douleur fait explosion en clameurs déchirantes, inarticulées. Heureusement, cette diversion est bienfaisante. Après un quart d'heure de douce gronderie et l'absorption d'un demi-flacon d'eau de fleur d'oranger, les deux victimes épuisées ronflent à poing fermé. Et il n'y aura que Madame d'Estrel qui passe une nuit blanche. Dame, n'est-ce pas? On prend sur soi, mais pour pendant qu'une mère ne sait pas, ne doit pas dénaturer, on serait bouleversé à moins. Aurore suprême, te voici levé, soleil d'Austerlitz ou de Waterloo. Brisée par l'émotion, il est endormi comme un sac de plomb. Tel Condé à la veille de Rocroi, a dit d'une façon plus distinguée M. d'Estrée. Elle apparaît au déjeuner de famille un peu pâle mais résolue. Une bouclette soigneusement frisée sur le front, un ruban neuf saignant son catogan, atteste sa volonté de ne négliger en face des examinateurs aucun moyen de combat, fût-il extra-scientifique. Elle avale quelques bouchées, regarde la pendule. Il est temps. M. d'Estrel, qui a tiré sa montre, acquiesce. D'un commun accord, il a été décidé que c'est lui aujourd'hui qui servirait de cornac à sa fille. En cette heure critique, son égalité d'humeur sera un précieux appoint. Chacune retenant son émoi et grimaçant d'un rictus pénible, invraisemblable contrefaçon de sourire, Madame d'Estrel et sa fille s'étreignent tandis que la jeune Yvonne larmoie dans son chocolat. Si la solennité de cette démonstration n'est pas sans souffrance, elle a aussi quelques douceurs austères. Impossible de ne pas songer à des scènes historiques, les adieux de la mère spartiate et de son fils, ceux de Fontainebleau. Mais arrière les sentimentalités, en route. Il faut dégringoler l'escalier, héler un fiacre maraudeur. Et du haut du balcon, deux mouchoirs s'agitent. Et puis, c'est le tournant. Au trot cahotant de la Rossinante, on roule vers le quartier Saint-Sulpice. Il fait une jolie matinée, tiède. Paris s'éveille et va à ses affaires. De temps en temps, M. d'Estrel, qui a allumé une cigarette, formule une remarque quelconque. On se croirait un jour comme les autres. Maintenant, l'îlette est calme. Le temps des vaines terreurs est passé. Il s'agit de se débrouiller. On quitte le boulevard Saint-Germain. Une rue de médiocre apparence, on tourne, et c'est la place de Grève, enfin je veux dire, le monument administratif où la cohorte ironique des bourreaux patentés par l'État guette l'innocent troupeau dévoué à leurs offices. Il bêle l'innocent troupeau. Dans la ruelle sinistre, devant les portes fermées de l'édifice, grouillent les vierges douloureuses environnées des mères tragiques, des institutrices correctes et des soubrettes déférentes. Oh, elles sont de toute provenance et de tout aspect. Les unes sont descendues de limousines luxueuses et les autres de démocratiques omnibus. Il en est de grasses et de maigres, de dégingandées et de nabottes, des cramoisies et des livides, Quelques chapeaux-cloches et quelques robes entravées dénoncent des velléités de séduction. De neutres galerins, des corsages amorphes, des chaussures éculées, déclinent toute autre préoccupation que celle de la justice idéale. Un bourdonnement de voix monte. Ça et là, des éclats de rire nerveux, des attitudes trop aisées, des propos cyniques attestent une volonté de bravade. Mais il y a prédominance des joues pâlies, d'yeux brillants, de lèvres crispées. Des mères se mouchent, formulent à demi-voix des recommandations. Tu as des plumes de rechange, hein, et ton flacon de sel, des pastilles de menthe. Ne te laisse pas mettre en retard. Allez, tu te rappelles pour les mots composés. Autour d'une dame à lunettes, un groupe attire l'attention. Elles sont un peu fagotées, mais commandent le respect. C'est l'escadron redoutable des Saintes-Denisiennes. Sur elles plane l'ombre du grand empereur. Rien qu'à envisager leur visage résolu, on diagnostique une connaissance approfondie de toutes les arcanes, participes, décimales et coalitions. Une rumeur, les portes s'ouvrent, un reflux inonde le perron. Dans la salle des pas perdus, il y a encore une station. Les dernières adjurations voltigent. « Surtout ne te trouble pas, tu sais combien je penserai à toi. » Donne-toi bien le temps de te relire. Et il y a aussi des exclamations étouffées. Oh, je ne trouve plus mon porte-plume. Oh mon Dieu, la règle de même. Dans la main de sa fille, M. d'Estrel insère le double bulletin qui affirme son droit légal de participer à l'examen et il lui glisse dans l'oreille les vœux qui s'efforcent d'être enjoués. Sans rien entendre, Lilette sourit vaguement. Elle a les yeux troubles, les jambes en sein doux, le cœur fade. Pourvu que ça finisse, mon Dieu, et que ça commence. Ça y est. D'une voix de stentor, un appariteur donne mine le brouhaha qui tout à coup s'apaise. Les demoiselles de la première série, à gauche. Entraînée par le fleuve humain, Lilette franchit une porte, enfile un escalier, un corridor, et, sans savoir au juste comment, se trouve assise devant un pupitre sur lequel s'étalent un certain nombre de feuilles de papier. Comme dans un rêve, elle s'installe, essuie son porte-plume. Au fond de la salle, les tortionnaires font à leur poste. Des dames inspectrices vont et viennent. Lilette sent à l'âme un froid inexprimable, pourtant aussi je ne sais quelle fierté confuse. Pam pam, d'un coup de papier furibond, le chef des bourreaux a frappé devant lui la table. Et au milieu du silence des victimes, il annonce: « Attention, mesdemoiselles, nous allons commencer la dictée. » C'est le moment. Lilette se cramponne à son porte-plume. Pourra-t-elle écrire? Les mots arrivent confusément à son oreille et ses doigts tremblent si bien fort qu'elle est incapable de former les caractères. C'est l'affaire d'un instant. D'une voix plus intelligible, l'un des exécuteurs adjoints répète le texte. Ah, cette fois, Lilette a compris. Courbée sur son papier, elle gribouille, et maintenant, attentive, sagace, livre bataille en pleine possession de ses moyens, l'œil ouvert à tous les pièges de consonnes redoublées et aux embuscades les plus insigneuses des participes. À 11h15, docile à la consigne, Monsieur d'Estrel attend sa fille à la sortie. Et tout endurci qu'il soit ou affecte d'être en vertu de sa nature masculine encore desséchée par la pratique de la géologie, Il faut peut-être un petit effort pour poser un sourire sur son visage quand, au milieu du troupeau déferlant des candidates, il avise le filial chapeau-cloche en paille fauve, garni de velours noir et de cerises. Eh bien, il y a certes dans la voix de Lilette un grattement d'émotion. Pourtant, il lui semble que cela n'a pas trop mal marché. Lilette et M. d'Estrel déjeunent en tête à tête dans un restaurant du quartier latin. D'un échange approfondi de renseignements, d'un examen attentif des feuilles vertes du brouillon, il résulte que la dictée est correcte et que Lilette semble avoir développé d'une manière à peu près congruente une pensée philosophique d'inspiration honorable, sinon extrêmement originale. Dans ces conditions, Lilette s'aperçoit qu'elle meurt de faim et savoure la satisfaction de commander elle-même son menu sur la carte et d'être appelée madame en raison de la grande dignité de sa tenue. Un tour au Luxembourg, un instant de flânerie sous les galeries de l'Odéon, et de nouveau dans la salle des pas perdus, le brouhaha de l'attente. Mais ce n'est plus l'angoisse de la première heure. De cette première épreuve honorablement franchie, naît une demi-confiance. Il y a du plaisir à reconnaître des visages déjà familiers. Cette grosse avec des lunettes est une proche voisine de composition. Certains spectacles sont navrants. Une maigre très rousse dont la voix chevrotte a découvert 7 fautes dans sa dictée. Elle est sûre de son échec. Hélas, c'est la vie. Mais déjà, le loisir est passé et des apitoiements altruistes. Voici que, réintégrée dans la salle de torture, remise en présence des feuilles officielles, Lilette griffonne sous la dictée d'un mathématicien apoplectique le texte du problème, celui de la question de théorie. Est-ce un rêve? Mais la jeune Yvonne, elle-même, déterminerait le point de croisement de ces bienheureuses locomotives. Et si l'on imagine que la théorie de la multiplication est capable d'embarrasser une élève du cours Bonnefou, méfiante de quelque traîtrise sournoise ou d'une étourderie, Lilette a bien relu sa copie 12 fois. Non, le tout est impossible. S'il est une certitude mathématique, c'est celle de sa victoire. Cet après-midi, c'est Madame d'Estrel, puisque la contagion de son émoi est désormais sans péril, qui est venue chercher sa fille. Il lui suffit d'un coup d'œil sur le visage qui s'offre à elle pour que se desserre l'étreinte qui lui oppresse la gorge. Cela a marché? Les chapeaux-cloches et parasols entrent en collision dans une étreinte passionnée. Dans la pâtisserie voisine, entre une tarte et un baba au rhum, c'est le torrent des confidences saccadées et douces. Il y en a sur le visage de Lilette une modestie triomphante. Il y a de l'extase dans le regard dont Madame d'Estrel embrasse la championne dont elle a doté l'univers. Le lendemain, à 11h30, tout de même jusqu'au dernier moment, frémir des battements de cœur, la liste est affichée. Le numéro 2216, autrement dit Mademoiselle d'Estrel, figure parmi les admissibles aux épreuves pratiques. Il est désormais permis, sans témérité, de respirer. Lilette n'est pas maladroite en couture, a une calligraphie honorable et, sans faire concurrence à Raphaël, portraiture couramment une chaise ou un arrosoir. Et c'est l'âme confiante que Madame d'Estrel, l'ayant vu disparaître dans le couloir de la salle d'examen, va téléphoner des nouvelles à M. d'Estrel et à une élite de parentes, faire 2 ou 3 courses au bon marché, et à 4h30 revient attendre sa fille. Et voici que, lorsque parmi le boutonnement des chapeaux, elle a reconnu la cloche ornée de cerises. Sur ses lèvres, brusquement, s'éteint le sourire qui s'épanouissait. Dans la paille fauve s'encadre une face bouffie, aux yeux à la coque, aux joues livides. Madame d'Estrel, sans la voir s'étrangler, passe son bras sous celui de l'épave, l'entraîne doucement.
Alors,
c'est le désastre, quoi? D'où? Comment?
Oh, c'est bien simple, la couture.
Sujet. Couper l'étoffe en deux morceaux dans le sens de la chaîne, réunir ces deux morceaux jusqu'aux deux tiers de leur longueur au moyen d'une couture rabattue au point de côté. Ouvrir les deux bords de la fente et arrêter cette fente par une bride dite point d'arrêt.
Si vous voulez, c'était pas terrible.
Et au commencement, on n'a pas trop mal marché, mais... Et puis, comment ça s'est fait, j'en sais rien. Peu à peu, les choses se sont embrouillées. Dilette a essayé de se rattraper, a perdu la tête, éparpillé des points extravagants. Les ourlets ne joignaient pas. Enfin, ce qu'elle a remis ne ressemble à rien. Madame d'Estrel essaye de lutter contre l'évidence. Voyons, peut-être que Lilette s'exagère, les choses. Et puis il y a l'écriture, le dessin. L'écriture, le dessin. Doucement, Lilette secoue la tête. Elle a inondé, sans interruption de ses larmes rondes, bâtarde et anglaise. Et quant au dessin, oh, c'est tout au plus si, à travers le rideau qui lui obscurcissait la vue, elle distinguait confusément le tréteau qui servait de modèle. C'est à 6 heures que sont affichés les résultats des épreuves pratiques. Madame d'Estrel et sa fille se rappelleront longtemps les 3 demi-heures d'attente qui ont précédé. En vain, Lilette a-t-elle été adjurée de prendre une tasse de thé et de croquer un gâteau. Oh non, elle s'est déclarée incapable d'avaler une gorgée de liquide, une bouchée d'aucun aliment substantiel. Lamentablement, on est allé échouer sur un banc de la place Saint-Sulpice. Mais le roulement des autobus, les allées et venues des passants, la lumière du soleil était importun. Les grandes douleurs ont besoin de retraite. On est entré dans l'église. Sous les voûtes obscures, âprement, Lilette a savouré sa détresse. À peine, par de rares monosyllabes, répondait-elle aux interrogations maternelles. Un instant seulement, elle est sortie de son hébétude. C'est quand deux jeunes filles, dont l'une était la grosse à lunettes, on passait à côté d'elle, des cierges à la main. Les ayant tendus à un prêtre, sont agenouillés sur les prie-dieu pendant qu'ils se consumaient. Elle a regretté que sa foi huguenote ne lui permît point de tenter ce moyen suprême d'implorer la miséricorde céleste. Pour épargner à sa fille la brutalité du coup de hache, Madame d'Estrel lui a offert d'aller seule connaître le résultat, de revenir le lui rapporter dans l'ombre. Mais, farouche, têtue, Lilette a secoué la tête. Non, non, elle ira. Jusqu'au bout, elle fera face au sort. Le verre à venir, pareil au condamné qui refuse de se laisser bander les yeux devant le canon noir des fusils braqués sur lui. Et c'est pour cela que, les dents serrées, les joues blêmes marquées de taches pourprées, cramponnée au bras de sa mère, elle demeure debout, immobile, dans le bourdonnement de l'attente. Exécuteur du destin, l'homme surgit. Il tient à la main la liste fatale qu'au moyen de 4 punaises il va afficher. Alors, vers le panneau administratif, c'est la ruée du troupeau éploré. Avec un tremblement convulsif, Madame d'Estelle, myope, essuie sur son nez. Oh non, 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 non! Avec un tremblement convulsif, essuie, essaye. Avec un tremblement convulsif, Madame d'Estrée, myope, essaye sur son nez d'assujettir son face à main. Mais ses yeux se brouillent, ne distinguent rien, tandis que çà et là, autour d'elle, montent dans la fougoule des glapissements, des petits cris, des rires aigus, un sanglot. Et tout à coup, elle sent dans sa chair s'incruster les ongles de sa fille qui lui murmure à l'oreille avec un râle « Ça y est, je suis admissible !» Le râle, très pâle, les yeux brillants, les lèvres frémissantes, il tient tête à la horde lâchée des examinateurs. Contre elle, frêle et solitaire, ils sont cinq à se relayer. Quatre mâles, l'un vieux et gras, l'autre jeune et brun, le troisième est blond, myope et très sale, le quatrième est chauve. Il y a aussi une femelle, longue, sèche et mal équarrie. Pendant 45 minutes d'horloge, Lilette, intrépide sur tous les terrains, maintient ses positions de combat. Avec une imperturbable maestria, elle énumère les campagnes de Louis XIV, les propriétés de l'oxygène, les affluents du Rhône et les règles de réduction de plusieurs fractions au même dénominateur. À peine faiblit-elle un instant sur les principes de la dilatation des corps, la mesure du cône et celle du cylindre. Elle compense cette défaillance en spécifiant avec prolixité les raisons qui lui font préférer le cid entre toutes les pièces de Corneille. Alors il faut pour l'arrêter des signes répétés du plus âgé des bourreaux. Et c'est maintenant l'instant décisif. Le jury s'est retiré pour délibérer. La face décomposée, les yeux vitreux, un brouillard autour d'elle. Lilette pétrit son mouchoir. En vain, Madame d'Estrelles, d'une voix blanche, proclame sa satisfaction, engage sa fille à dépouiller toute inquiétude. Elle ne répond pas, ne pense pas, reste immobile, les prunelles fixes. Et soudain, elle a un soupir. De la porte qui s'ouvre, le chef du jury s'avance, suivi de l'escouade de ses collègues et d'une voix enrouée comme indifférente, prononce le verdict. Lilette a un petit salut mécanique, et suivi de Madame d'Estrelles, trouve des forces pour gagner le couloir. Et dès qu'elle a franchi le seuil redouté, elle écoute un sanglot qui gargouille, glousse et pend sur ses joues des ruisseaux qui dégoulinent jusque sur son menton. Saisi de compassion, un aimable vieillard s'arrête et la réconforte. « Voyons, mademoiselle, mais vous serez plus heureuse l'année prochaine !» Alors, au milieu de ses pleurs, il faut tout de même qu'elle éclate de rire et articule entre deux suprêmes convulsions. « Ah mais non, monsieur, mais non, puisque je suis reçu !»